Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
J'ai pensé, mon message était façonné autour d'une personne. Une personne à laquelle on ne parle pas souvent d'elle. On ne parle pas souvent d'elle parce qu'elle parle toujours des autres. Elle pense toujours aux autres. Puis elle représente toujours quelqu'un d'autre, mais jamais elle-même. Et c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on soit reconnaissant pour la personne du Saint-Esprit qui habite dans chacun de ceux qui l'ont accepté. Fait que tout au long de mon message, ce que je vais faire comme si c'était son anniversaire, comme si je voudrais souligner ce qu'il fait, ce qu'il est. Puis, à la fin de mon message, bien, je vais avoir un travail pour vous autres. Fait qu'il faut vous rester attentifs. Vous voulez peut-être prendre des notes. Le tempo du message, ça va être un message qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité. Puis l'idée, là, c'est que si tu essaies de prendre des notes, tu vas capoter. Là. Si tu essaies de tout écrire, là. Mais dites-vous que vous êtes comme quand vous êtes devant le soleil. Est-ce qu'on peut avoir trop de soleil? Oui, on peut. Si on ne se met pas de la crème, on peut brûler. Mais ce que je veux dire, on n'en a jamais assez de soleil. Hein? Surtout là, on s'en vient au mois de novembre, tout ça. Là, il va y avoir des journées plus grises. On va dire non, il n'y en a jamais assez de soleil. Bien, dites-vous que le message, ça va être un peu comme si les versets de la Bible venaient bronzer notre peau et comme si on n'était pas obligé de tout capturer. Comme le soleil, il y a beaucoup de rayons qui passent chacun de notre côté, mais on pogne qu'est-ce qu'on est capable de pogner. Ça serait l'ambiance du message. Par contre, votre papier, votre crayon va vous aider parce qu'on va avoir un devoir à la fin. Puis tout au long du message, si vous avez pris des notes, vous allez pouvoir sûrement participer un petit peu plus. Par contre, il y en a qui ont de la bonne mémoire et tout ça, puis vous n'avez pas besoin d'écrire rien. Au moins, préparez vos crochets. Vos crochets, parce qu'il y a des anneaux qui vont passer, puis il va falloir vous accrocher sur un anneau ou deux anneaux pour pouvoir être transporté jusqu'à la fin du message. Puis c'est le Saint-Esprit qui justement, il est au milieu de nous, puis lui, il veut qu'on fasse quelque chose avec ce qu'on a entendu. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Mais avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, le titre de la série, qui a déjà 5 parties, c'est « Chrétiens en mission ». Et dans cette série-là, on parle que dans la vie d'un chrétien, il y a une mission, et cette mission-là a 3 mouvements. Le premier, c'est que le chrétien est appelé de lui vers l'Église locale. Il est appelé à laisser sa vie individuelle au profit d'une vie communautaire. Il est appelé à sortir de chez lui puis se rassembler entre croyants, mais il est appelé aussi à servir dans le Seigneur, dans cette Église-là. Et donc, ça demande un mouvement qui est « avant je vivais pour moi, maintenant je vis pour les autres et pour Dieu ». Et l'Église est au centre de ce projet-là. De lui vers l'Église, premièrement. De l'Église locale vers le monde, deuxièmement. Jésus ne nous dit pas « aller dans le monde et inviter les gens à aller à l'Église ». Il nous dit d'aller dans le monde puis d'annoncer la bonne nouvelle. Puis le troisième mouvement qu'on n'a pas encore vraiment adressé, prochaine à cette étape, c'est du monde vers l'Église locale, finalement. C'est que l'Église, c'est l'endroit où ce que nous, on est appelé à quitter notre individualité d'une certaine manière pour la fondre dans une communauté, mais c'est aussi de créer cet endroit-là où ce que les gens qui vivent pour eux-mêmes puissent aussi se déplacer vers l'Église locale, puis de faire de Jésus le centre de leur vie, puis les autres aussi. Donc, on avait parlé de lui vers l'Église locale, on avait parlé d'exercer un ministère dans l'Église, de faire quelque chose dans l'Église. Ensuite, c'était de l'Église locale vers le monde. Puis là, on avait parlé de se préparer à partager. Que chacun d'entre nous, on avait une histoire. Puis, tu sais, ça n'existe pas, ça, je ne sais pas évangéliser. On n'a peut-être pas les techniques. Peut-être qu'on en dit trop. Peut-être qu'on ne sait pas par où commencer. Mais on a le message, par exemple. On sait qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. On sait ce qui s'est passé pendant 3 jours. Puis on sait ce qui s'est passé le 3e jour. Puis on sait en qui on a cru. Puis on sait qu'on a l'assurance de la vie éternelle pour la majorité. C'est juste qu'on ne sait peut-être pas comment l'arranger. On s'est dit, bien, regarde, première étape, ça serait de préparer à mettre par écrit mon témoignage que je serais capable de raconter à peu près en 2 minutes pour que si un jour j'ai le goût d'évangéliser ou j'ai à cœur, puis le Saint-Esprit il pousse vers ça, bien, je puisse raconter mon histoire. Ensuite, on a parlé des lois du royaume, puis on a vu que la façon que Dieu travaille, c'est que Dieu, lui, sème ses semences. Puis il y a plusieurs paraboles dans ce message-là qu'on avait vu. Puis les semences, il y a beaucoup de semences qui tombent sur le bord du chemin puis qui ne portent pas de fruits. Il y en a qui, finalement, ils tombent dans une bonne terre, qui produisent 30 fruits, 60 fruits et même jusqu'à 100 fruits à cause que la personne va avoir écouté la parole puis avoir voulu l'obéir puis la mettre en pratique. Elle va être un bon disciple. Puis là, il y a un mouvement qui va se créer à partir de ce genre de personnes-là. Les gens qui reçoivent la parole dans une bonne terre. Puis on a vu que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on concentre nos efforts sur ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui veulent pas, qui ne portent pas de fruits. Récemment, j'ai évangélisé une personne. Elle était dans un temps de besoin, mais je lui ai dit, bien, j'aimerais ça ouvrir la Bible avec toi, si tu veux, pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce que Dieu, si la Bible est vraie, dans le fond. Puis je savais déjà la réponse. J'avais une très forte impression que la personne dirait non, mais savez-vous quoi? Le royaume de Dieu marche par invitation. Alors, je ne suis pas blessé que la personne ne m'ait pas répondu ou qu'elle m'ait répondu non. Pourquoi? Elle a eu l'invitation. Après ça, ça ne dépend plus de moi, ça dépend d'elle. Mais il faut apprendre à faire des invitations comme ça pour aller dans le monde. On a parlé aussi de travailler avec le Saint-Esprit, puis que le Saint-Esprit dans le monde, une des œuvres qu'il fait, c'est de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Donc, aujourd'hui, le dernier message que j'ai fait, j'ai parlé comme quoi que pendant que toi, tu es en train de parler de l'Évangile à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de parler à son cœur. Il est en train de la convaincre qu'elle n'a pas encore reçu la vie éternelle. Il y a cette conviction-là qui arrive. Et donc, on doit apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, à la fin du message, j'aimerais ça que vous ayez fait une application avec le message. Donc, il y a des anneaux qui vont passer tout le long. Comme imaginez un rack chez le nettoyeur, là, puis vous choisissez votre crochet, puis vous allez avec ça jusqu'à la fin du message. Okay? Puis à un moment donné, bien, je vais vous demander comment est-ce qu'on marche ou on travaille avec le Saint-Esprit. On va prendre le principe du jeton. Souvent, le mercredi, on dit ça. Le principe du jeton, c'est que, dans le fond, si tu utilises ton jeton pour parler, bien, tu as utilisé ton temps. Puis le but de ça, c'est qu'il y a des gens qui sont timides parmi nous puis qui ne parlent pas. Mais quand celui qui parle beaucoup, il a utilisé son jeton, lui, il aurait le goût d'encore parler. Là. Lui, il voudrait parler encore. Mais là, il a son jeton et il dit, « C'est-tu pour celle-là que je veux utiliser mon jeton? » Ça va faire une belle genre d'échange où ce que chacun va avoir la chance de partager. Par contre, vous n'êtes pas obligé de parler à la fin, d'accord? Mais on va voir ce qui va se passer durant le message, ça va être intéressant. Alors, aujourd'hui, connais le Saint-Esprit. Je vais vous amener à des vérités tout au long des Écritures qui nous montrent qui est le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est une personne. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ton esprit que tu as placé en nous. Merci que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Merci que le Saint-Esprit, il nous illumine afin qu'on puisse comprendre tes Écritures. Seigneur, on te rend grâce de nous avoir envoyé ton esprit afin, Seigneur, qu'on ne soit pas orphelins. Je te remercie, Père, d'avoir envoyé l'Esprit, un autre Consolateur comme Jésus-Christ. Et je te prie que le Saint-Esprit puisse venir fortifier les croyants dans leur être intérieur, afin qu'on vive une vie spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus, le Saint-Esprit est une personne, et même s'il est présenté comme une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins dans tout le monde entier. Dans Acte 1, 8, il est bien plus qu'une puissance. Parce qu'une puissance, tu n'es pas obligé d'avoir une relation avec. Tu l'as, tu peux faire quelque chose. Mais le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Jésus dit qu'il va envoyer, que le Père va envoyer un autre Consolateur. Puis en passant pour les versets, je vais te donner une liste de versets. Comme ça, tu ne seras pas obligé de toutes les noter aujourd'hui. Puis tu vas pouvoir les mettre sur Internet. Parce que vous savez, les gens, ils cherchent, mettons, Jean 14, 16, on sort d'un premier d'un site français, parce qu'à chaque fois qu'on dit un verset dans le message, ils sont tous indexés par le moteur de recherche sur Internet. Ça, c'est vraiment bien, ce que tu fais. Donc, Jésus annonce que le Père va envoyer un autre Consolateur. Un autre Consolateur. Donc, un autre Consolateur dans Jean 14, 16. Un autre ici, c'est un autre du même type. C'est comme si j'irais dans une fromagerie puis je dirais, je prends un sac de fromage puis je dis, pouvez-vous m'en donner un autre? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai déjà un, c'est un autre pareil. C'est un autre du même type. Mais si je me déplace vers les fromages assortis puis j'aimerais ça avoir un autre fromage, qu'est-ce que le commis va comprendre? Un différent, quelque chose d'autre. Alors, quand Jésus dit « je m'en vais », puis le Père va vous envoyer un autre consolateur, c'est un autre du même type. OK? Et donc, Jésus lui-même est un consolateur. Le mot « consolateur » veut dire « avocat » ou « celui qui vient à côté aider dans la faiblesse ». Et Jésus, dans 1 Jean 2,2, c'est écrit que quand nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et donc, Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais il y en a un autre comme moi qui va venir. » Fait que celui qui est comme Jésus-Christ est avec le croyant. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il est une personne comme Jésus. Au même titre que Jésus, il est une personne. Puis, il est envoyé pour être comme Jésus pour les croyants. D'ailleurs, quand que Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu », quelques versets après, le mot « le », c'est un pronom masculin. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas « le » comme quelque chose, mais dans l'original, c'est le dans le sens « il ». Et c'est un pronom masculin qui est utilisé comme une personne. Le Saint-Esprit a des caractéristiques d'une personne. Par exemple, c'est écrit que « personne ne connaît la pensée de Dieu, sauf l'Esprit », dans 1 Corinthiens 2,12. Hein? Donc, il a des caractéristiques d'une personne. Prochain clic. Oups! Ah, je ne les ai pas écrits ici, les caractéristiques d'une personne. Parfait. Donc, premièrement, l'intelligence. Il a l'intelligence. Il connaît toutes choses. Hein? Dans 1 Corinthiens 2,12, il connaît tout, il sonde tout, il connaît tout. Il a l'intelligence, il a des émotions. Ah, il y a un beau verset ici, je trouvais. Paul dit aux Romains, « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi. » Wow! Saint-Esprit qui communique l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est quoi le premier qu'on entend dans la liste? L'amour, exactement. Donc, le Saint-Esprit a des sentiments, il a des sentiments d'amour. Et Paul, il supplie les frères et sœurs de Rome de le combattre avec lui, avec l'amour de l'Esprit, hein? Ce qui nous unit ensemble. Il y a des émotions, il y a la volonté aussi. Dans 1 Corinthiens 12,11, c'est écrit que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. Hey, c'est lui qui est le manager ici. C'est lui qui distribue là, dans l'Église, dans le corps de Christ, les dons comme il le veut. Hein? Il fait ce qu'il veut. 1 Corinthiens 12,11. Il fait les actions d'une personne aussi. Il agit comme une personne. Il rend témoignage. Hein? Il va convaincre, on a vu ça dans mon dernier message. Il va vous conduire dans toute la vérité. Je vais les dire, les versets, juste au cas où quelqu'un l'écoutera en audio. Là. Il rend témoignage, c'est dans Jean 15, 26. Il convainc, c'est dans Jean 16, 8. Il conduit dans toute la vérité, c'est Jean 16, 13. Puis Jésus dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur va venir, il va me glorifier. Donc, c'est des actions d'une personne, se rendre témoignage, convaincre, conduire quelqu'un dans la vérité, glorifier Jésus-Christ. Il appelle les hommes à le servir. Il y a un beau verset dans Actes 16, au verset 5, qui dit que Paul, il faisait le ministère, puis c'est écrit, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversa la Phrygie et le pays de la Galatie. » Donc, le Saint-Esprit se met dans le chemin de Paul, il l'empêche de passer, c'est comme il ferme une porte, puis il le conduit ailleurs, parce qu'il y a une volonté, il agit comme un homme, comme une personne, je m'excuse, puis il va appeler les hommes à le servir. Non, pas là, là. Oui, là, mais après ça, va là. Tu sais, on a vu avec Philippe le mercredi, il y a 2 semaines, que le Saint-Esprit a mis à cœur à Philippe d'aller voir un homme qui est en train de lire un livre sur un chariot. Et qu'est-ce qu'il lisait sur le chariot? Il lisait le prophète Ésaïe. Et là, Philippe est arrivé, puis il se sentait poussé par le Saint-Esprit, puis il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il a commencé à lui expliquer. Et qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué la personne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et donc, le Saint-Esprit vient glorifier Christ au travers des Écritures. C'est vraiment intéressant. Le Saint-Esprit, on peut y citer... Ah, excuse-moi. On agit avec lui comme s'il était une personne. C'est-à-dire qu'on peut dans Actes 5, 9, le tenter. On voit des gens ici qui lui ont menti dans Actes 5, 3, donc dans le même contexte. Ils ont tenté, c'est-à-dire qu'ils ont provoqué le Saint-Esprit à les discipliner parce qu'ils avaient compté des mensonges. L'attrister dans Éphésiens 4, 30 et un beau verset dans Ésaïe 63, 10 aussi, qui dit que vous avez attristé le Saint-Esprit qui vous conduisait et il s'est mis en bataille contre vous en parlant du peuple d'Israël. On peut, comme une personne, lui résister dans Actes 7, 51. On peut l'insulter dans Hébreux 10, verset 29. Ça, c'était des chrétiens qui ils avaient peur de la persécution, fait qu'ils ont décidé de se faire juifs à nouveau, comme plutôt, pas juifs, mais ils sont retournés au sacrifice de l'Ancien Testament. Ils ont recommencé à vivre comme s'ils n'avaient jamais connu Jésus, les sacrifices parfaits, puis ils allaient faire les sacrifices au temple, puis ils faisaient des hypocrites. Parce que dans le fond, ils ne voulaient pas se faire persécuter comme des chrétiens, fait qu'ils faisaient semblant de ne pas en être. Et ça, c'était une insulte. C'était une insulte au Saint-Esprit dans Hébreux 10, 29. Le blasphémer dans Matthieu 12, 30, c'était d'attribuer, dans le fond, au miracle que Jésus faisait par le Saint-Esprit, d'attribuer à Jésus d'avoir été, de faire les miracles par la puissance de Satan. Alors, on peut donc faire des choses comme s'il était une personne, le mentir, l'attrister. Ah oui, il y a des émotions, c'est vrai. Lui résister, l'insulter, le blasphémer. Aussi, il n'est pas juste une force. On le sépare de sa force. C'est-à-dire, il est cité avec le Père et le Fils dans Matthieu 28, 20, quand c'est écrit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, il est cité parmi les personnes de la Trinité. Dans 2 Corinthiens 13, 13 aussi, c'est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que les communications du Saint-Esprit, que l'amour du Père soit avec vous. Je veux dire, les communications du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu me communique quelque chose par grâce, c'est par le Saint-Esprit qu'il le fait. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Il est nommé avec les autres personnes de la Trinité. Ça, c'est beau. On le distingue de sa puissance. Ça, c'est intéressant. Il y a des œuvres divines qui lui sont attribuées. Pas sûr que j'étais à la bonne place, moi. J'ai l'impression que... Ça va pas là. C'est pas grave. On le distingue de sa force. Pause mentale. Saint-Esprit... Ah, OK, je l'ai ici. Dans Actes 10, 38, c'est écrit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. » Il n'y a pas une force. Il y avait le Saint-Esprit et la force qui était au Saint-Esprit. Dans Romains 15, 13, c'est écrit, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Il n'est pas une puissance, mais il est une personne qui a la puissance. Paul il dit, « Ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est vraiment intéressant. Il est aussi distinct du Père. Je ne sais pas si je l'ai mis. Prochain clic. Yes, merci. Super, excellent. Ah, il était là, mes versets. OK. Le Saint-Esprit est Dieu. Fait que d'abord, le texte nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » Soit il est un idole, soit il est Dieu. Et la Bible, on sait très clairement qu'elle est contre l'idolâtrie. Puis d'ailleurs, une entité qui rentre dans une autre entité, c'est soit un démon, soit c'est Dieu, mais ce n'est pas, c'est pas juste une personne. Donc, il est une personne, puis en plus de ça, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, puis c'est spécial. Dans Jean 14, 17, il dit à ses disciples, Jésus dit, il y a un autre consolateur qui va venir, mais il ne sera pas avec vous, il sera en vous. Alors, la personne qui est semblable à Christ en tout point, qui est comme Jésus-Christ dans sa personne, Il habite en nous. Fait que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était avec nous, et maintenant, l'Esprit de Jésus-Christ est en nous. Il est éternel. Dans Hébreux 9, 14, c'est écrit que Jésus s'est offert par un esprit éternel à la croix. Le Saint-Esprit qui était à l'œuvre à la croix, Jésus s'est offert par un esprit éternel, par l'Esprit éternel. Il est omniscient. Dans 1 Corinthiens 2, 10, c'est écrit qu'il connaît toutes choses. Ici, il dit, il va vous enseigner toutes choses. La même affaire, il va vous conduire dans toute la vérité. Il connaît toutes choses. On commence à voir que c'est une personne, mais il est unique, il est Dieu. Il est omnipotent, c'est lui qui a enfanté Jésus-Christ. C'est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Le Saint-Esprit viendra et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Il est omniprésent. David dit dans le psaume 139, il dit, « Où fuirais-je loin de ton esprit? Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Hein? Si je prends les ailes de l'aurore, à quelque part, il dit, je ne peux pas fuir loin de ton esprit. Donc, il est partout. Il est Dieu aussi, puis il y a des œuvres divines qui lui sont attribuées. Par exemple, la création, il est distinct du Père encore, parce que dans Genèse 1, c'est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis après ça, c'est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Un peu comme avec Marie, hein? Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et donc, à la création, il est distinct du Père, mais il participe à la création. Dans Job 33, 4 aussi, c'est écrit « L'Esprit du Tout-Puissant qui m'a créé. » Et c'est son souffle qui m'anime. Dans le psaume 104, c'est écrit « C'est ton souffle qui leur donne la vie. » Psaume 104, verset 29, donc un souffle. Quand on parle de souffle, c'est le mot « esprit » aussi qu'on pourrait traduire. « C'est ton esprit qui me rend la vie. » C'est lui qui régénère aussi. Pensez à ça. C'est lui qui fait naître de nouveau une personne. Il y a un gars qui était avancé dans la religion. On connaissait les textes des Écritures, tout ça. Il s'appelait Nicodème. Il était plus avancé qu'à peu près n'importe qui dans les Écritures. Puis Jésus dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu ne nais d'esprit et d'eau. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait naître de Dieu et l'eau qui est comparée à cette parole qui vient nous laver. Cette parole qui vient nous engendrer. Donc, il a participé à notre naissance spirituelle. Et donc, c'est merveilleux. On est ouvrier avec lui, là. L'incorporation. C'est pas moi qui va dire à quelqu'un, viens faire partie de mon Église. C'est moi qui va dans le monde pour que le Saint-Esprit puisse les incorporer dans le corps de Christ, qui est une entité complètement invisible, qui est l'ensemble des croyants joints les uns aux autres par le Saint-Esprit dans une seule famille qui ne connaît ni division ni barrière. Et donc, c'est beaucoup plus puissant que ce que les gens voient de l'extérieur. C'est un chrétien, c'est des gens qui vont dans une église ou qui ont amené quelqu'un dedans l'église. Non, on amène les gens à ce que le Saint-Esprit les prenne de ce monde de ténèbres puis les fasse participer au royaume du Fils bien-aimé dans la lumière. Et ça se passe au travail. Ça se passe dans nos loisirs, ça se passe dans nos familles, ça se passe quand l'Évangile, l'eau de la parole, elle vient laver l'entendement des gens parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, quand on annonce l'Évangile, quand la parole de Dieu est enseignée, une capacité qui est donnée à la personne, s'ils reçoivent, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cette parole-là. Et donc, c'est quoi ici? Ça veut dire que vous avez été baptisé par un seul esprit pour appartenir à l'Église, pour être placé dans l'Église. Et lorsqu'on se fait baptiser, on est en train de dire, j'ai accepté que Christ meurt pour moi puis me place dans son Église. Son esprit me place dans son Église. Dans Éphésiens 1, au verset 7, c'est écrit, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Puis là, tu viens de me dire ici que le baptême, c'est d'être baptisé par l'Esprit dans un seul corps. Pourquoi faut-il que je me fasse baptiser dans l'eau? Ah! Tu te fais baptiser par le Saint-Esprit dans l'Église, puis toi, tu fais le symbole de ce qui est arrivé dans l'invisible, c'est que tu te fais aussi incorporer. Et là, tu te fais entrer dans l'eau complètement pour montrer aux gens de ta famille, le témoignage extérieur, que tu as été placé en lui, dans sa mort et dans sa résurrection. L'incorporation. Ensuite, l'inspiration des Écritures. Dans 2 Pierre 1, 21, il nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. La résurrection des morts. Hey, c'est Christ qui a ressuscité Christ. Si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est ça que Paul nous dit dans Romains. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, un jour, il va te ressusciter avec lui aussi. Wow! Hey, c'est quelqu'un, quand même. Hein? Non? Ses paroles sont celles de Dieu. En Ésaïe 6,9, il est dit qu'il a endurci leur cœur, parce qu'ils ont endurci leur cœur, il a endurci leur cœur, puis là, ça dit Dieu ici. Et pourtant, ici, dans ces deux passages-là, et principalement dans Actes 28, verset 25, c'est écrit « De raison, le Saint-Esprit a dit que vous avez endurci vos cœurs, il a endurci vos cœurs, afin que vous ne voyez pas. » C'est intéressant. Il prend un verset dans l'Ancien Testament que ça parle de Dieu. Ici, Jésus en parle comme si c'était Dieu. Et l'apôtre, je pense que c'est l'apôtre Paul, il va dire « De raison, le Saint-Esprit a dit. » Pour les apôtres, c'était clair que le Saint-Esprit, c'était Dieu. Parce que ses actions étaient les mêmes. Il est distinct du Père, on l'a vu à la création, il se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était là aussi, le Père. Sa relation aux Écritures est dans la vie de Christ. Aujourd'hui, on veut connaître celui qui est notre, de qui on est le partenaire. Je ne dirais pas qu'il est notre partenaire, ça ferait quasiment, ça ferait quasiment lui l'employé de service. Non, il est Dieu, on lui doit toute notre révérence. Mais c'est avec lui qu'on travaille. Puis en le connaissant mieux, comment il travaille avec les Écritures, comment il a travaillé dans la vie de Christ, ça nous donne une indication pareille, comment il travaille avec les hommes aussi. Sa relation avec les Écritures, il est l'auteur, il est l'interprète des Écritures. On l'a cité tantôt, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a inspiré l'Ancien Testament. On voit dans Actes 1,16, ici, c'est écrit que ça parle de Judas, qui le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David. Donc, quand la personne parle dans Actes 1,16, elle dit « Le Saint-Esprit avait annoncé par la bouche de David ». Ici, on vient de le voir, là, c'était passé. Puis ici, c'est intéressant parce que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ça avait été dit dans l'Ancien Testament, c'est recité dans Hébreux 10,15, puis c'est écrit « Le Saint-Esprit dit, n'endurcissez pas vos cœurs. » C'est lui qui a inspiré le Nouveau Testament, dans Hébreux 3,7. Je pense que ce passage-là, il dit « Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous parle. » C'est vrai de même que c'est écrit dans Hébreux 3,7. Celui qui a accepté le Seigneur a reçu le Saint-Esprit, puis il a accès à une connaissance que celui qui n'a pas accepté le Seigneur ne l'a pas. Il y a encore un voile qui demeure sur leur regard lorsqu'ils lisent les Écritures. Par contre, pour le chrétien, Paul va prier dans Éphésiens 1,7, il dit « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous le fasse connaître. » On a un esprit de sagesse et de révélation qui nous est donné. Dans Jean 16,14, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Hein, il va vous montrer toutes choses. Mais ça, c'est des promesses qui sont faites à ceux qui ont décidé d'accepter le Seigneur Jésus puis de le suivre. Puis ici, c'est intéressant. Dans 1 Jean 2,20, c'est écrit, « Vous avez reçu l'onction et cette onction vous enseigne toutes choses. » Puis l'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient comme un enseignant pour nous enseigner. Puis il disait, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais dans le texte, quand vous regardez bien le contexte, on vous a déjà enseigné. » Fait que c'était pas vrai qu'une personne a l'onction du Saint-Esprit, elle n'a pas besoin d'avoir un pasteur, elle n'a pas besoin d'avoir personne qui les enseigne. Mais, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Autrement dit, il y a des gens qui arrivaient avec d'autres doctrines que la doctrine qui avait été communiquée dans les Écritures, puis il leur disait, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez déjà reçu ce qu'on vous a enseigné, demeurez dans l'onction qui vous a été donnée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait utilisé les enseignants pour les amener dans les Écritures. Avec Jésus-Christ, sa relation avec Christ, c'est lui qui a conçu Marie, on en a parlé tantôt. Quand Jésus était dans son ministère, dans sa vie, un peu, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Bien, il l'a rempli. Il l'a rempli au jour de son baptême, dans Matthieu 3,16. Et dans Ésaïe, c'est écrit, ici c'est intéressant, dans Ésaïe 61,1, c'est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, Et pendant que ça, ce texte-là, Jésus était rentré dans le temple tout de suite après son baptême, puis il avait ouvert le texte, puis dans les synagogues, on passait chacun notre tour, puis on allait lire le texte. Puis Jésus a pris les rouleaux, là où on était rendu, et il a lu Ésaïe 61:1, puis il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Et il venait juste de se faire baptiser, le Saint-Esprit venait juste de venir sur lui comme une forme corporelle. Et donc, il l'a rempli au jour de son baptême. Il y a une voix du ciel qui s'est exclamée, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, les gens l'ont probablement vu, parce qu'il y en a qui disent « C'est descendu comme une colombe », d'autres comme une forme corporelle. Mais il y a quelque chose qui est descendu sur lui et les gens ont entendu cette voix-là. Et là, voilà qu'il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint », ou le mot « oint » veut dire « choisi hein, » pour un ministère. Et donc, Ésaïe 61, puis là, ici, dans Luc 4, 18, Jésus, il lit ce texte-là et ça s'est accompli. Il le oint pour faire le ministère. C'est écrit, vous savez que le Saint-Esprit a rempli Jésus d'esprit et de force pour qu'il fasse son ministère, pour faire des miracles. Il a reçu l'Esprit sans mesure dans Jean 3, 34. Il a reçu le Saint-Esprit. C'est écrit, il a été rempli du Saint-Esprit pour être conduit, il a été rempli du Saint-Esprit pour être conduit dans le désert, pour être tenté par le diable. Et donc, c'est les combats qu'il a eus venaient de l'inspiration du Saint-Esprit qui lui rappelait les Écritures, parce qu'oubliez pas que même si Jésus était Dieu, il s'est dépouillé de ses attributs d'une certaine manière. Il les avait, mais il ne les a pas utilisés. C'est comme si j'avais une maison puis je n'allais pas dans une pièce voisine. Est-ce qu'elle est à moi, cette pièce-là? Oui, mais j'ai décidé de ne pas aller dans cette pièce-là. Et donc, elle reste propre, elle reste rangée. Mais Jésus a dit qu'il est devenu un homme comme nous. Et donc, tous ces miracles, il les a faits, non parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il a dépendu de la troisième personne de la Trinité pour faire ces miracles. C'était toujours en réponse à la prière. Quand il choisissait des disciples, ce n'était pas parce qu'il était omniscient. Mais... Non, il a passé une nuit en entier à prier pour savoir qui devrait avoir comme disciple. Pourquoi, s'il connaissait toutes choses? Pourquoi, s'il était tout puissant, notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas le faire lui-même? Mais parce qu'il est devenu comme un simple homme. Et il n'a pas utilisé tous ses attributs qui le rendent Dieu à part entière. Mais il a reçu l'Esprit sans mesure et le Saint-Esprit pouvait faire des choses au travers de lui. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il a combattu les tentations du malin et qui lui rappelait les Écritures. Puis il était capable de dire, non, là, le menteur, ici, tu mens, c'est pas ça qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Puis il a résisté, puis le malin, il a fui loin de lui. Le Saint-Esprit, il est celui qui doit remplacer la présence de Christ pour nous. Le Saint-Esprit, il n'est pas le remplaçant avec nous. Il est le remplaçant de Christ en nous. On voit ça dans Jean 14, 18. Il a ressuscité Christ, on l'a vu tantôt. Prochaine à 7 ans. Faites-vous bronzer, relaxez, là. Je sais qu'il y a beaucoup de versets. Laissez-en passer s'il faut, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie du croyant? Eh bien, au salut, c'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est lui qui nous habite. Il nous baptise. Ça, ce n'est pas le baptême d'eau, je vous en ai parlé tantôt. C'est de nous mettre dans l'Église. Pas dans une Église locale, mais dans participant à l'Église. Il nous scelle aussi dans Éphésiens 1.13, Éphésiens 4.30. C'est lui aussi qui vient nous donner la certitude qu'on est enfant de Dieu. Romains 8.16, c'est écrit que le Saint-Esprit en dedans de nous, il nous fait crier « Abba, Père », qui nous fait crier « Papa ». C'est l'Esprit de Dieu qui vient mettre cette certitude-là dans ton cœur, que tu es un enfant de Dieu puis que c'est réglé. Tu es scellé par le Saint-Esprit aussi. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, jusqu'au jour de la rédemption, il y a un sceau. Qu'est-ce que c'est être scellé? C'est deux choses. C'est la garantie d'une promesse, c'est la garantie que ça va arriver. Puis deux, c'est une garantie de propriété, c'est-à-dire que tu appartiens à Dieu, c'est une chose qui est réglée, c'est déjà fait, et ça, c'est à cause que tu as le Saint-Esprit. Aussi vrai que le Saint-Esprit va retourner à Dieu quand va venir la fin, aussi vrai que tu vas retourner avec ton corps ressuscité dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette garantie-là, et on doit être reconnaissant pour ça. Il nous donne la certitude qu'on est des enfants de Dieu, son œuvre permanente dans la vie du croyant. Et là, il y a plein de crochets qui passent. Je ne sais pas sur lequel vous êtes accroché. Ça va être intéressant de voir. Sa relation dans la vie du croyant, il le remplit. Dans Éphésiens 5, 18, je pense. Je l'ai-tu écrit? Oui. Il le remplit. Soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça se traduit comment? On pourra en parler tantôt. C'est lui qui nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui vient produire la maturité aussi, qui vient faire d'une personne qui est endurante, patiente envers les choses ou endurant envers les gens. C'est lui qui vient produire l'amour, la paix, une paix même quand que le monde est troublé. Hein? Quand on regarde les nouvelles, là, comment tu veux être en paix? Tu peux être en paix avec une juste relation par le Saint-Esprit. Il vient produire en nous tous les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit et tous ses aspects. On va regarder ça plus comme un diamant avec plusieurs facettes que des fruits différents. C'est le Saint-Esprit et les attributs de sa personne qui sont créés dans nous. Okay? C'est ça, dans Galates 5, verset 29, 22. Et puis Éphésiens 5, 9. Donc, il fait produire de la maturité dans notre vie. Il nous rend de plus en plus semblables à la personne de Jésus. Il nous équipe pour un ministère particulier, il nous a donné des dons, on a accepté le Seigneur, il a préparé des œuvres pour nous, puis il nous donne des dons différents. Il donne de la force contre la chair. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu as une force contre la chair. Ici, dans Romains 8, au verset 2, c'est écrit que l'affection de... L'affection de la chair, en tout cas, vous aurez lu, ça dit que le Saint-Esprit nous rend vainqueurs sur la chair. Il nous donne des dons spirituels. Il intercède pour nous. Père, je ne sais pas quoi te demander. Je ne sais même pas si c'est bon pour moi que tu viennes m'enlever ça dans ma vie. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Je ne sais pas. Mais alors que moi, je suis en prière et je ne sais pas quoi demander dans mes prières, dans Romains 8, 27, il nous a dit que le Saint-Esprit intercède. Mais celui qui prie, c'est Dieu. Pensez-vous qu'il y a des bonnes chances d'être répondu? C'est écrit qu'en même temps que moi, je prie, le Saint-Esprit vient intercéder avec moi. Puis le mot intercéder, c'est de venir prendre, c'est comme si c'était prendre une table trop lourde à porter. Quelque chose que tu n'es pas capable de prendre juste par toi-même, puis lui, il vient l'autre bord, puis il vient. Puis moi, je veux dire, Seigneur, je ne sais même pas quoi te demander dans cette chose-là, mais je m'approche de toi. Puis pendant que tu pries, le Saint-Esprit prie au Père. Puis il demande pour toi, il connaît toutes choses, lui, il sonde toutes choses. Il sonde les profondeurs de Dieu, il sonde les profondeurs de l'homme, puis il a connecté ça ensemble. Puis il t'intercède pour toi. Pendant que tu pries, tu ne sais pas trop quoi demander, le Saint-Esprit, il intercède. Romains 8, versets 26 à 27. Il vient communiquer une assurance aux chrétiens. La première épître de Timothée, il va dire, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Il vient fortifier. Paul, quand il prie pour les Colossiens, au chapitre 3, il dit, je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez fortifiés par la force du Saint-Esprit, que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. Il vient donner une force, il vient te fortifier. Il répand l'amour de Dieu dans ton cœur, dans Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ça nous donne d'espérer, ça nous donne de dire, sais-tu quoi? On va aller de l'avant. Ah, tac, 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 tac. Il guide, guide. Il instruit. Je l'ai-tu mis? Ah, je pense que j'ai un autre acétate. Est-ce que tu veux? Ah, non. Il instruit, il accorde des dons, oui, c'est ça, je l'ai, bon, j'avais plein d'autres versets, mais je pense que vous avez la preuve qu'on parle pas mal de lui quand même dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? J'arrive à la fin, la question du début, c'était comment est-ce qu'on peut travailler avec lui, comment on peut marcher avec lui? Je vais vous poser des questions, mais on a une relation avec lui comme avec une personne, hein? Tantôt on en avait parlé. Il nous est demandé de ne pas l'attrister par la pratique du péché, dans Éphésiens 4, 30. De ne pas le tenter en mentant, c'est à peu près la même affaire que le premier ici, dans Actes 5, 9. De ne pas l'éteindre en empêchant son ministère. C'est écrit direct de même. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce que ça voudrait dire de ne pas éteindre l'esprit avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui? pas éteindre l'esprit. C'est intéressant. De ne pas outrager en minimisant l'œuvre de la croix, hein, les Hébreux qui ont dit « Moi, je veux vivre comme si je n'étais plus un chrétien. Hein, vivre comme si je n'étais plus un chrétien. » Ne pas résister l'esprit en refusant d'obéir à ses directives dans Actes 7, 51. Alors, pour ceux qui sont sur enregistrement, nous, on va continuer le message, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a appris, puis comment on peut traduire ça en collaboration avec le Saint-Esprit, puis on va arrêter l'enregistrement après que j'ai fait cette slide-là. Donc, comment marcher et travailler avec l'esprit? On peut arrêter l'enregistrement. Puis là, bien, je vous invite à...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.